soyez les bienvenus sur France Inter dans la bande originale avec Morgane Cadignan, avec Alexis Le Rossignol, Tom Villa, tout à l'heure Tanguy Pascuro, Daniel Morin est là également, et nos invités sont Joël Pomera et Jean-Robert Charrier. Le metteur en scène Joël Pomera et le directeur du théâtre de la Porte Saint-Martin et aussi du Festival d'Anjou, Jean-Robert Charrier, sont nos invités. On va parler ensemble de Cendrillon, la recréation de Joël Pomera. Vous allez pouvoir voir au théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 3 mai jusqu'au 19 juillet. C'est un très très beau spectacle qui avait déjà été monté. On va raconter un peu la genèse de l'histoire de ce très beau spectacle de Joël Pomera. Mais avant ça, on va jouer avant de les accueillir, d'après vous, quel thème ?
Cendrillon.
Les Disney ?
Les Cendrillon, les Disney.
Les godasses,
les contes.
Les contes.
Les citrouilles.
Les princes, les petites souris, les carrosses. C'est parti, premier titre.
Tom.
Ouais.
Téléphone. Ah, Cendrillon.
D'accord. J'ai presque dit avant.
Premier point
j'ai
pour Tom.
J'ai presque dit avant.
C'est un concept, ça, le presque avant.
Ouais, ouais. Mais surtout après, quand même.
Jolie petite histoire.
Premier point pour Tom, téléphone, un grand standard. C'est la dernière soirée en boîte.
Grand standard, téléphone, très bonne vanne.
Ah oui, je l'avais pas. Deuxième
un peu
titre.
Faut la capter.
Deuxième titre.
C'est français.
C'est français. Enfin, c'est francophone.
De ta maison. Alexis, Daniel, Stéphane Escher. Alexis Escher.
Escher, absolument, c'est un point pour Daniel. C'est Cendrillon.
Faut dire ton prénom.
Mais je l'ai dit.
Ah,
c'est Daniel
alors,
qui ne l'a pas dit. Son prénom.
Alors, Alexis a été plus rapide, me dit-on, mais plus bas. Alors, je donne le point à Alexis, c'est ça ?
Bah non, celui qui.
Pourquoi plus bas ?
T'étais plus discret.
Ouais, on donne le point à Alexis.
Plus feutré.
Alexis, un point. Désolé Daniel, mais ça va revenir, tu vas voir.
Ah non, ça revient.
C'est Cendrillon, un
peu.
J'y crois plus, hein.
Cendrillon, après minute, Stéphane Escher. Troisième titre.
Cendrillon.
Morgane ?
Oui.
Henri Salvador ?
Oui.
Bravo.
Écoute, c'est beau.
Ayam.
Pour toi, il y a
ça casse.
Écoutez.
Dans ta maison.
Il y a un peu Frédéric Mitterrand. Mais tellement.
Cendrillon.
Cendrillon.
Vous ne respectez rien.
Non, c'est pas si.
Quatrième titre.
Morgane, Chantal Goya.
Ah oui.
C'est vrai. Tu sais, je l'ai eu à ta tête.
On m'appelle Cendrillon.
Chantal Goya, on m'appelle Cendrillon.
Je l'ai eu sur l'air de joie sur le visage de Leïla.
De dos alors.
Chantal Goya qu'on avait reçu dans cette émission.
Oui, super émission.
En décembre, c'était un bon moment avec Chantal Goya.
C'était un beau cadeau de Noël.
C'était un très beau cadeau de Noël.
Ouais.
Un point pour Tom, un point pour Alexis, deux points pour Morgane. Ça va revenir Daniel, je le sais, ça va revenir.
Faut arrêter, faut arrêter.
T'es optimiste.
Ça, c'est pour Morgan, c'est sûr. Ou Tom.
Henri Salvador.
Tom. Willy Denzey.
Non.
Alexis.
Ouais.
Mary J. Blige.
Non.
Ah, Tom.
Ouais.
Matt.
Ouais.
Oui. Mais du ghetto, évidemment.
Cendrillon du ghetto.
Oh, Cendrillon du ghetto. Avec un petit l'ordre aussi.
Ouais,
un
petit l'ordre pour les familles.
Ça va alors, c'est alors.
Pour être sûr. On est dans les années.
Et puis c'est avec le thème, quoi.
Égalité, Tom et Morgane. Le prochain titre, vraiment, soit vous connaissez le titre et ça va être facile pour vous, mais reconnaître la voix, c'est pas simple. C'est un interprète hyper connu pourtant.
Français.
Cendrillon.
Français.
Christophe.
Non, mais je pensais
Morgane,
à ça aussi.
Ouais. Laurent Voulzy.
Non, écoutez bien.
À la Chamfort.
Non.
C'est un chanteur.
Car la Chine.
C'est un chanteur, Cendrillon de Chinatown.
Bernard Lavillier.
Non.
Ah non, mais la Chine. Non.
Alors attends, non, Bernard Lavillier avec cette voix-ci. Non, c'est pas possible.
Je sais qu'il a une petite paire de voix en ce moment, mais là.
L'indice, c'est Chine, tu as dit ?
Non, il n'y a pas d'indice. Le titre, c'est Cendrillon de Chinatown. C'est un artiste que j'adore, que je reconnais tout le temps.
Alain Bachung.
Absolument. Quoi, c'est Alain jeune. Bachung, Cendrillon de Chinatown.
Cendrillon.
C'est sa voix.
Et il avait quel âge? Bah, avant la clope.
Trois points pour Morgane, deux points pour Tom, un point pour Alexis. On continue de jouer autour des Cendrillons, des titres avec Cendrillon. Allez, super banco. Daniel, t'as toutes tes chances. Ah.
Tom, Aznavour.
Non. Goldman.
Frédéric François.
Je voudrais.
Daniel,
ouais.
Adamo.
Adamo.
Ne te prends pas.
C'est vrai que c'est revenu.
Ne te prends pas pour Cendrillon, Daniel.
Ça, c'est vrai, je me le dis toujours.
Et c'est une victoire, c'est un vol, un hold-up.
Non, non, ouais, c'est
Daniel
Morin. Le braquage.
Et on accueille nos invités, Joël Pomera et Jean-Robert Charnier.
France Inter, la bande originale, Leïla Kaddour.
Bonjour, soyez les bienvenus tous les deux. Jean-Robert Charrier, vous êtes un habitué de l'émission. On peut dire ça comme ça, presque un sociétaire. Joël Pomera, c'est un plaisir, c'est un honneur. C'est la première fois que vous venez dans la bande originale. Il a fallu longtemps pour que vous veniez nous voir. On est contents.
Puis une sacrée enveloppe, hein. Elle est payée, hein.
Comment allez-vous?
Ça va très bien.
Ça va. Vous venez nous parler tous les deux de Cendrillon qui va être recréé au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 3 mai jusqu'à fin juillet, c'est
ça ? Jusqu'au 19 juillet.
19 juillet, c'est une très belle pièce, un très beau spectacle. J'ai eu la chance de voir il y a des années à Paris dans un autre endroit, je crois que c'était au Théâtre de l'Odéon.
Oui, Château Liberté.
Et à présent, c'est une donc recréation. Expliquez-nous recréation, ça y est, c'est reprécisé.
Alors ce terme, je ne sais pas qui l'a sorti, mais en tout cas, il a dû être écrit quelque part, donc quelqu'un l'a écrit. Le spectacle s'est arrêté pendant 3-4 ans, parce qu'il avait bien vécu, et aussi parce qu'il y a eu un petit drame à l'intérieur de ce spectacle, un gros drame même. Il y a eu la disparition d'un des membres de l'équipe. Donc, vraiment, on s'est dit qu'on allait faire une vraie pause, et puis peut-être un arrêt complet. Puis, il y a eu l'opportunité de le reprendre aujourd'hui. C'est la même mise en scène. Il y a d'autres personnes qui font leur entrée dans ce spectacle. Donc, on travaille beaucoup pour les inclure comme il faut, quoi. Et le spectacle, normalement, repart. Voilà, il aura changé parce qu'on a tous changé et qu'on est dans le monde d'après, donc voilà.
Et il y a eu un désir aussi commun tout d'un coup, parce que il y a eu votre envie sans doute de le recréer, ou de le monter à nouveau, et puis il fallait aussi un bel écrin. C'est pas la première fois qu'il y a des ponts entre vous deux, Joël et vous, Jean.
On avait déjà repris le spectacle il y a 5 ans,
en 2017.
C'était la première fois qu'on reprenait un spectacle aussi emblématique du secteur subventionné à la Porte Saint-Martin. Ça n'était pas si simple il y a 5 ans. On avait senti qu'il y avait besoin de montrer un peu patte blanche pour rassurer les gens, pour montrer aux gens que c'était vraiment le même spectacle, qu'il soit dans un théâtre public ou dans un théâtre privé.
Voilà, il faut expliquer qu'il a été créé dans un cadre de théâtre dit subventionné, théâtre dit public, pour qu'on comprenne. Il y a toujours une sorte de schisme qui tend un peu à disparaître dans le monde du théâtre.
Oui.
Parce que finalement, si on peut tout voir au même endroit, c'est super. Et finalement, les barrières sont abolies.
Ouais.
Et vous avez eu cette envie de reprendre ce spectacle pour le donner au Théâtre de la Porte Saint-Martin.
Enfin, les barrières sont abolies. Peut-être pas d'ailleurs, mais il ne faut pas les abolir.
Pour les spectateurs,
très bien.
Non, mais pour les spectateurs,
pour les spectateurs, oui. Voilà. En l'occurrence, ce qui est certain, c'est que c'est vraiment exactement le même spectacle, qu'il soit au Théâtre Liberté, à l'Odéon ou à la Porte Saint-Martin, donc voilà. Mais donc oui, on l'avait repris il y a 5 ans. Entre-temps, on avait repris Ça ira fin de Louis, un autre spectacle de Joël. Et puis voilà, effectivement, il y avait une opportunité de reprendre Cendrillon, et c'est un spectacle tellement populaire et magnifique qu'il n'y avait pas d'hésitation à voir.
Un spectacle que j'ai vu plusieurs fois au théâtre, je crois à l'Odéon, ensuite au théâtre de la Porte Saint-Martin. J'ai eu la chance de revisionner aussi, parce qu'il y a une captation, même si on vous encourage bien entendu à aller voir les spectacles sur scène, mais là il reprend le 3, donc je ne pouvais pas créer un espace-temps.
Non, t'avais pas envie.
Oui, j'avais pas envie de créer un espace-temps parallèle. Non, mais je serais bien bien venu assister aux répétitions. Ça m'intrigue toujours parce que j'aime beaucoup votre travail, Joël Pommerat. Je crois que j'ai vu à peu près toutes vos pièces. Donc, comme ça, ça fait pas de moi une experte pour autant. Ça fait de moi une amatrice. Ce Cendrillon, comment le présenter au public? Comment raconter sans trop raconter, peut-être, l'histoire? On a forcément ce conte-là qui nous habite depuis l'enfance, qu'on connaît plus ou moins selon la version de Perrault ou la version de Grimm, qui ne sont quand même pas vraiment semblables, hein, d'ailleurs, ces deux versions. Et puis, il y a la version que vous nous donnez à voir, celle de Joël Pommerat.
Oui, enfin, c'est un conte populaire, comme on dit. C'est un mythe. C'est une histoire qui a été racontée plein de fois de façon différente, en fait. Qui, je crois, dans plein de pays, on retrouve des manières de le raconter. Donc, il a été popularisé particulièrement par ces deux versions de ces deux écrivains, Perrault et Grimm, qui étaient deux. mais voilà, c'est encore une autre version, une autre interprétation de ce mythe, de ce conte. Mon écriture personnelle, enfin ma version personnelle, c'est plutôt d'en faire une enfant, en tout cas une très jeune fille, oui, qui a 11-12 ans, qui a perdu sa mère, c'est très important, et qui se retrouve dans la famille de la nouvelle femme de son père, qui est évidemment pas très sympathique,
la
qui est une femme assez, voilà, la belle-mère, qui est une femme assez fragile, on va dire, assez, donc du coup, qui a des angoisses et qui est assez possessive et qui est maltraitante, on va dire. Mm-hmm. Et la rencontre avec la souffrance de cette jeune fille, ben voilà, ça fait quelque chose de particulier. En l'occurrence, la docilité de cette jeune fille, moi, je l'ai plutôt comprise comme étant, voilà, chez cette jeune femme, un besoin de se faire du mal,
de souffrir,
c'est une décision à elle, c'est pas les autres qui lui font du mal, enfin en tout cas, c'est les autres sont des instruments un petit peu plus que elle a plutôt elle de toute façon l'envie de pas être heureuse parce que ce deuil est impossible à faire pour elle et que quand on est dans cet état-là, on n'a pas envie d'être heureux et au contraire, ça peut nous arranger d'avoir mal.
Le théâtre, c'est de la parole en action. Et là, on a un avertissement au début de cette pièce. C'est que, attention aux mots, attention à ce qu'on croit entendre, attention au sens qu'on peut donner aux termes et à quoi ils peuvent nous conduire, en fait. Parce que le drame de cette petite fille, au-delà de la perte de la figure de sa mère, c'est aussi de s'astreindre à continuer à penser à elle continuellement, sans quoi sa mère pourrait véritablement disparaître. Il y a aussi quelque chose de... On parle des contes à destination souvent des enfants, mais pas que. Il y a quelque chose aussi sur le danger de la langue, de l'incompréhension, de passer à côté.
Voilà, dans l'histoire, si on va un peu plus loin dans la précision de l'histoire, oui, elle a cru comprendre au moment où sa mère mourait, que sa mère lui demandait de continuer à penser à elle... sans arrêt, pour l'empêcher de mourir définitivement, ouais, et complètement. Ce qui, je vais pas dévoiler la fin.
Oui.
Elle a cru l'entendre. Elle a cru entendre ça. Donc elle s'astreint à penser à sa mère tout le temps.
Grâce à cette montre qui rappelle sans cesse
que
le deuil,
il est ineffaçable. Pour effectivement, au cas où elle oublie d'y penser, ouais, et voilà, ça lui sonne un rappel. Et donc elle est dans cette espèce de chose impossible à tenir, de continuation perpétuelle d'une pensée, même si c'est un être cher, à quelqu'un. Et comme elle n'y arrive pas, comme elle faute, elle s'en veut énormément. Mmh. Et c'est son petit drame à elle.
Dans votre parcours, Joël Pommerat, les contes ont une place importante. Récemment, Contes et Légendes, je pense à ce spectacle, moi, que j'ai eu la chance de voir après... Ça a été mon premier retour au théâtre, ça a été votre spectacle, en fait. Je me disais qu'après les histoires de confinement, de fermeture, d'enfermement, il fallait fêter le retour, donc je suis allée au Bouffe du Nord voir ce spectacle. Le Chaperon Rouge, Cendrillon, qu'est-ce qui se joue autour des contes dits populaires chez vous, dans votre façon de l'envisager, de créer?
C'est venu parce que... J'ai croisé sur ma route, quand j'ai commencé à faire du théâtre, des personnes qui m'ont aussi initié. Je pense à quelqu'un en particulier, quelqu'un qui s'appelle Jean-Jacques Fdida, qui est encore un conteur et qui se nourrit vraiment des contes et qui, voilà, lui a une façon plus traditionnelle de les traiter. Et puis parce que à un moment donné, il y a eu la question de faire du théâtre pour les enfants. Mmh. En fait, mmh. ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'à la base, Cendrillon, c'est un spectacle pour les enfants. Pour les enfants de, voilà, de 12 ans, enfin, je pensais pas pour les petits-enfants, ouais, clairement. Ouais, donc, on, puis finalement, j'ai compris que ça intéressait peut-être plus les adultes que les enfants. Donc, bon, j'ai un petit peu planté, mais en tout cas. En tout
cas alors, je vous souhaite d'autres plantades comme ça, parce que franchement.
voilà, je me suis intéressé au conte au moment où, particulièrement, j'ai eu l'intention de d'écrire pour les enfants. Et puis aussi parce que vous avez parlé de contes et légendes, il y a d'autres pièces qui sont, enfin que j'ai écrites, qui sont constituées en fait de petits fragments, de petites histoires. En littérature, on dirait des nouvelles ou des contes en fait. Voilà, moi je suis plus, je crois, fait pour écrire des choses courtes, on va dire. Voilà, donc peut-être. Voilà, le conte, c'est vraiment ce qui se fait, ouais, de mieux de ce point de vue.
On peut voir donc Cendrillon au Théâtre de la Porte-Saint-Martin à partir du 3 mai jusqu'au 19 juillet. On va aussi pouvoir découvrir ou redécouvrir le travail de Joël Pommerat au Festival d'Anjou.
Oui.
Et oui, Jean, parce que là, on fait une spéciale Joël Pommerat, puisqu'on pourra voir Ça ira, La fin de Louis, première partie, Le petit chaperon rouge,
et Contes et
légendes. Ouais, voilà, les trois. Donc les trois de Joël Pommerat.
On a chance, les Langevin, d'avoir trois spectacles de Joël Pommerat, je trouve.
Beaucoup de chance. Donc pour Ça ira, La fin de Louis, c'est à partir du 23 juin jusqu'au 25 juin, jour de mon anniversaire, je le dis comme ça, c'est un signe. Contes et légendes, 28 juin, 30 juin.
Ça,
bien sûr, ça, mais moi je vois des signes partout, c'est comme ça. Le petit chaperon rouge du 23 et au 20, jusqu'au 25 juin encore, comment vous dire que les astres sont alignés. On continue de parler avec vous de ce très beau spectacle, Joël Pommerat. Ici on est ravis de vous accueillir autour de la table, hélas, il y a quelqu'un ici qui ne vous aime pas, c'est Morgane Cadignan.
Ah, Joël et Jean, je vous aime pas, mais ah, j'aime bien Joël et Jean, ça fait très nouvelle vague comme titre. Joël et Jean, je vois des herbes hautes, des bicyclettes, Jeanne Moreau ou Anna Karina couvrent un volet de couleur pour gueuler. Joël et Jean, venez manger, oh là là, mais où est-ce qu'ils sont passés encore? Ouais, bon, voilà, ça me fait juste penser à Jules et Jim, quoi. Hein. Je la joue au cahier du cinéma, mais c'est juste les consonances qui m'ont fait penser à ça. Je suis rien qu'un chimpanzé avec un stylo, quoi. Bon, Jean, non, mais elle est très bien, votre programmation, c'est pas le problème, mais c'est pénible. Nous, on peut pas passer notre vie dans votre théâtre, faut qu'on vive. Ou alors, vous allez au bout de l'accès à la culture et vous me louez une petite studette en face, quoi. Ou dans le théâtre, vous pouvez me faire une petite place, genre petite créature qui vit dans les combes. Et en plus, ça peut vous aspirer un espèce de conte, Joël. Et puis, pour me jouer, franchement, c'est facile, un enfant gentil mais sauvage. En ce moment, il y a les stagiaires de 3e à Radio France, il y a qu'à se baisser, quoi. Pour ramasser un petit mini bobo mal coiffé. Et non, mais en plus, je dormirais dans la malle à costume niveau espace, un petit truc avec des fringues démodées et poussiéreuses, ça me rappellera mon appart. Et je trouve que c'est joli, moi, l'histoire du gosse qui squatte sans payer de loyer pour assister à toutes les pièces. Il y a bien eu le mystérieux sonneur de cloche. Je peux être la mystérieuse casseuse de couilles, on ne sait pas. Mais franchement, c'est le bossu de Notre-Dame. Je me vois sur les vidéos YouTube de mes chroniques. Je ne suis pas bossu, mais honnêtement, meuf, tu ne vas pas mourir si tu te tiens droite une fois dans ta vie, quoi. Et niveau vêtements, la dernière collection H&M, pardon, mais on n'est pas loin de la guenille. Donc, il n'y a plus qu'à écrire le texte, mais je ne vais pas vous mâcher tout le boulot non plus. Déjà que j'ai un peu inspiré Cendrillon. Pardon, une très jeune fille à la beauté indicible, coincée dans une famille qui la martyrise, l'obligeant à nettoyer les chiottes. C'est juste complètement mon histoire dans cette émission. Nagui, c'est ma méchante belle-mère. Daniel, Tom, Alexis, c'est les petites souris qui m'aident à faire mes robes. Et Leïla, c'est la marraine qui fait apparaître des trucs c'est la moi. Nuit en faisant des mélanges chimiques. Ou la gadou, la magique à bout, le popper siba, bidibou. Et après, elle disparaît dans un nuage de fumée à ne surtout pas inhaler si vous devez vous occuper d'un enfant le lendemain. Voilà. Donc j'ai inspiré plein de trucs, mais il y a des trucs que j'ai pas inspiré dans Cendrillon, genre le carrosse qui redevient une citrouille, gaspillage alimentaire, et vous avez déjà essayé sous Hidalgo de vous garer dans Paris en cucurbitacée, c'est un enfer. Tu peux pas laisser ton potiron deux secondes devant un magasin sans qu'il y ait un SDF qui essaie de se faire une soupe, c'est insupportable. Et plus sérieusement, comment vous résumez la Cendrillon de Joël Pommerat, à part vous dire que ça serait vraiment dommage de la résumer, parce qu'il faut tellement aller le voir ce spectacle. Moi je l'ai vu il y a quelques années au théâtre de Saint-Quentin en Yvelines, et ça m'a énormément marqué. pas le spectacle, hein, le RERC, qu'est-ce que c'est long. Oh Dieu que c'est long comme chariot. Mais le spectacle était très bien. Et comment vous résumez Joël Pommerat? C'est la personne qui crée plein de spectacles et qui parfois, comme en 2016, consacre une année à gagner des Molières. Voilà, la merveilleuse saison de la récolte. Comme les stagiaires de 3e, il n'y a qu'à se baisser. Alors Joël, si un jour vous êtes tenté par le passage au cinéma, j'ai un truc pour nous trois, genre Nouvelle Vague Moderne, et si ça marche pas, on la jouera au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Je connais bien le directeur et la malle à costume.
Merci Morgane Cadignan.
Morgane qui le 6 mai sera au Théâtre de la Cité à Nice.
Et à partir du 3 mai, Cendrillon au Théâtre de la Porte Saint-Martin jusqu'au 19 juillet. Morgane vient d'évoquer les composantes essentielles en effet du conte. Vous l'avez précisé, Joël Pommerat, la marâtre, la très jeune fille, le père qui se remarie, les demi-sœurs. Et puis on a forcément des éléments qu'on attend dans Cendrillon, la fée, le soulier. Et vous rejouez avec ces codes-là. C'est pour ça que c'est important de dire que ce n'est pas une version, une ressucée ou une simple. C'est une déclinaison à votre façon de Cendrillon.
Oui, les éléments sont là. Sinon, effectivement, il aurait fallu prendre un autre titre. Ouais. Et voilà. Je crois que j'ai essayé de pratiquer comme ça. J'ai pris l'objet existant, puis je l'ai un petit peu cassé. Et puis je l'ai remonté un peu de travers ou un ouais. peu différemment, mais tous les éléments, les principaux éléments sont là.
Et on est dans un espace-temps, on a des indices, et en même temps, l'espace-temps, peu importe de l'identifier clairement.
On est plutôt dans un temps
contemporain
mais un contemporain un peu passé,
ouais.
voilà, un peu Jacques Tati. C'est vrai que... On y a pensé quand on a travaillé, surtout avec Isabelle Desfins, par exemple, qui a travaillé sur les costumes. On a cherché du côté de cette période des années 50-60 en France, un peu emblématique d'un passé d'aujourd'hui, on va dire. Voilà.
Ouais. J'ai pas parlé de la distribution. Catherine Mestoussi, qui incarne cette marâtre que j'aime beaucoup, y a dans le casting, on va en parler de ce casting, du choix des comédiens et de vos collaborations, Joël Pommerat, Alfredo Cagnavate, Noémie Carco, Caroline Donnelly, Damien Rico, Marcella Carrara, qui je pense fait la voix, c'est sa
ça,
voix
oui,
hein,
oui.
qui habite le spectacle,
oui.
Julien Desmé, voilà pour la distribution de ce Cendrillon.
Léa Millet. Qui...
Ah, alors voilà. Qui donc ?
Léa Millet.
Léa Millet, pardon, j'ai
qui
pas évoqué. Qui fait Cendrillon, qui est au centre, absolument.
Non, c'est pas tout
alors,
de suite.
Pour préciser aussi, le rôle avait été créé par Déborah Rouache, c'est ça ?
C'est ça, oui.
Donc c'est cette version-là, moi, que j'avais vue. Et c'est cette version que j'aimerais découvrir, donc, avec Léa Millet sur scène au Théâtre de la Porte Saint-Martin. Cette distribution, cette équipe-là, Joël Pommerat, il y a une forme de diversité aussi dans la façon dont vous abordez, je trouve, la distribution des personnages sur scène, dans les comédiens. Je trouve que les comédiens que je vois dans vos pièces, c'est des comédiens que je vois nulle part ailleurs.
D'accord.
Ouais.
Non,
c'est des personnes avec qui vous collaborez
depuis longtemps. Vraiment, voilà, c'est ouais. pas un effort chez moi ouais. hein, de me dire il faut qu'ils soient différents, les ouais. gens. C'est peut-être plutôt que j'ai envie que les gens sur scène ressemblent à la diversité du monde qui nous entoure, quoi. Mm-hmm. Peut-être que quand je vais au théâtre, des fois, j'ai l'impression qu'il y a un petit monde là qui ne vit qu'au théâtre,
oui.
et que à ce moment-là, ça me dérange un petit peu. Donc, je m'efforce d'être comme on est vraiment.
Et je disais ça vraiment dans un sens laudatif, puisque la problématique, c'est plutôt de ne pas le voir ailleurs, me semble-t-il. Et dans vos pièces, en tout
tu
cas... Ouais, pardon, Jean.
Tu m'étonnes.
Voilà.
Évidemment.
En tout cas, dans vos pièces, voilà, oui.
Mais c'est vrai, en plus... mais en fait, je rejoins ce que tu dis, parce que... moi, j'avais peur de les rencontrer, les comédiens. Parce qu'ils m'ont tellement impressionné. Ouais. Moi aussi, je les ai vus à 50 ans en Yvelines. On y était le même soir, je pense.
et même RER.
Ils sont tellement, c'est tellement exigeant ce spectacle. Ouais. Ils sont tellement investis dans ce qu'ils font. C'est tellement, effectivement, ça devrait être normal, ça devrait être toujours comme ça, mais ça ne l'est pas. Que moi, j'avais peur de les rencontrer. C'est combien que tu vois sur scène, et puis après, t'as l'impression que c'est vraiment les personnages que tu rencontres. C'est très étrange.
Le personnage de la marâtre m'impressionne beaucoup.
Ah ouais,
Catherine Mestoussi, qui est belge. Ça apporte aussi quelque chose d'autre. Je sais pas comment vous l'expliquer, mais ça me fait de l'effet en tant que spectatrice. Je trouve qu'elle a une puissance sur scène, une incarnation qui est très très forte. Et il y a même une dimension. Alors, vous allez, Cendrillon, a priori, on rigole pas normalement. Moi, j'ai quand même une dimension quand même comique. Joël Pommerat, comment l'expliquer? C'est une volonté dans le travail, dans la façon de diriger les acteurs, bien entendu, j'imagine.
Oui, de pousser des situations jusqu'à la tragique comédie, en quelque sorte. Bien sûr, c'était une volonté. On fait pas de l'humour si on en fait des fois malgré soi, mais là, c'est un autre problème.
Regardez tout cette table, franchement. Et on est payé pour ça, c'est le scandale.
Mais pas cher non plus.
Mais non, bah.
Pas exagéré non plus.
Je vous en prie.
Non, mais oui, bien sûr. Bien sûr, c'était une volonté de faire un spectacle léger avec une forme de légèreté. Autour de. Disons que quand j'ai commencé à parler du spectacle et que j'ai dit que c'était un spectacle pour enfants autour de la mort, du deuil. Voilà, j'ai vu que les gens ils l'émissaient un petit peu. J'ai dit, mais peut-être qu'il y aura un peu d'humour. Donc en fait, voilà, j'ai poussé un peu cette carte parce que j'ai pour contrebalancer le projet de départ. Et puis que c'était un spectacle pour les enfants et que j'ai un petit peu honte de les désespérer de la vie si jeune. Et c'est un spectacle, oui, qui avait aussi, enfin, qui a été créé en 2011, une année où il y avait d'autres projets de la compagnie qui étaient plus sombres. Donc, je pense que j'ai eu besoin aussi de me diriger dans cette voie de légèreté.
Oui, parce que le message qu'on pourrait tirer de Cendrillon, c'est le mensonge des adultes, c'est l'absence de courage aussi de nombre d'adultes, leur duperie. Vous avez dit à plusieurs reprises dans des interviews que c'était important pour vous d'aborder ce conte, notamment parce qu'il y était question de la mort et que vous auriez aimé, vous, qu'on vous parle davantage de la mort quand vous étiez enfant?
Grande question, grand débat, bien sûr, intemporel peut-être. Oui, il se trouve que, oui, moi je l'ai rencontré, et que, effectivement, ça a été un grand vide autour de moi là-dessus, parce qu'on est désemparé. Je suis pas, en tant qu'adulte, je suis pas sûr que je réussirais mieux que les adultes à l'époque. Et que, oui, je me suis dit que peut-être il y aurait un enfant ou deux qui serait bien content d'avoir un spectacle qui soit pas un spectacle non plus trop intellectuel ou trop pour les adultes, qui permettrait une forme d'identification à quelque chose que cet enfant traversait dans sa vie, voilà.
Ouais, et c'est très réussi. C'est Cendrillon au théâtre de la Porte Saint-Martin, mise en scène par Joël Pommerat, écrit par Joël Pommerat, avec une superbe troupe autour de vous pour servir ce spectacle au théâtre de la Porte Saint-Martin du 3 mai au 19 juillet. Et dans la bande originale, maintenant, il faut accueillir notre petite Cendrillon à nous aussi.
Oh, c'est
gentil. Alexis Le Rossignol.
Bonjour à tous.
Bonjour et Alexis.
Ça va les pistonnets? Les invitations, les restos gratuits, tout ça.
Ah bon?
Hier matin, vers midi, j'étais chez moi, en train de chercher un sujet de chronique, et en même temps en train de chercher ce que j'allais manger. Ce que je conseille pas, parce qu'au bout d'un moment, les deux recherches se sont mélangées dans ma tête. Simultanément, j'ai pensé à faire une chronique sur la nouvelle doyenne de l'humanité, et en même temps à la cuisiner. En blanquette de vieille.
Oh.
Ou en sauté avec du riz.
Tu respectes rien.
Quand je me suis souvenu que j'avais des asperges blanches dans le frigo.
Ah.
Parce qu'en ce moment, c'est la saison des asperges.
C'est vrai.
Et moi, j'aime bien manger des légumes de saison. Parce que c'est à peu près la seule mode que j'arrive à suivre.
C'est
au
clair.
Moins, contrairement à la mode vestimentaire, elle est bonne pour la planète, celle-là. C'est dommage qu'on puisse pas s'habiller en asperges. Quoi. Donc, je fais bouillir de l'eau. Pendant ce temps-là, j'épluche mes asperges, c'est pour ça qu'il faut les choisir grosses, ça donne moins de travail. Mais au moment de les plonger dans l'eau, je me rends compte que ma casserole est trop petite. Et j'ai qu'une casserole. Donc, qu'est-ce que je fais? Je coupe mes asperges en deux.
Ouais.
Et je les plonge dans l'eau bouillante. Puis je les regarde cuire dans la casserole. Et ça prend au moins 20 minutes, c'est long.
C'est,
hein. Faut s'occuper, quoi.
C'est fou.
Donc, pour passer le temps, mais je les filme, mes asperges, et je mets une vidéo sur Instagram.
Ah, voilà.
Vous voyez l'influenceur fruits et légumes. Hein, et puis je rajoute des petits hashtags bien sentis. Je mets asperges, légumes de saison, bien manger, miam miam, Julien Bugier, foot porn aussi. Celui-là, il marche bien sur les asperges et les saucisses. Puis j'attends la gloire, là. Je suis là, light, petite tête jaune qui sourit, cœur, tout ce qui génère de la dopamine et qui, derrière le prétexte de partager un moment de vie, fait qu'on devient addict aux réseaux sociaux, quoi. Sauf que là, je commence à recevoir des messages de gens qui me disent que c'est n'importe quoi, qu'il faut pas couper les asperges en deux, que c'est un sacrilège, un blasphème, une gabégie. Mm-hmm. J'avais jamais entendu ce mot-là.
Ah bon?
Parce que les asperges, c'est comme les spaghettis, apparemment, ça se coupe pas. Mais je savais pas, moi. C'est écrit où que ça se coupe pas? Et des spaghettis coupés, j'en ai mangé toute ma vie. Hein. Ça m'a jamais rien fait, quoi. Même au marché où je les ai achetés, les asperges, ils en vendaient des cassés en deux. Des brisés, quoi. Des bottes de 500 grammes, moitié moins cher que le prix au kilo. J'ai hésité. Puis je me suis dit, sois pas idiot. T'as fait deux chroniques cette semaine, prends-en des belles, quoi. Et qui sont ces gens qui, d'un coup, j'ai l'impression d'avoir 50 personnes dans ma cuisine qui me traitent d'abruti parce que j'ai coupé des asperges en deux, quoi. Je publie des sketchs parfois, ils en ont rien à faire. Mais quatre asperges coupées en deux, ça y est, c'est la cata, quoi. Sans dire bonjour, en plus. Quand t'es poli, la moindre des choses avant d'insulter quelqu'un, c'est de le saluer, quoi. Bonjour, connard, ça coûte quoi? Et surtout, à les lire, j'ai l'impression d'être passé à côté d'une des infos essentielles du XXe siècle et d'être le seul à couper des asperges en deux dans ce pays, quoi. Pas par plaisir, en plus, juste parce que ma casserole est trop petite. Est-ce que les gens qui sont propriétaires d'une seule casserole comme moi passent devant les asperges et de facto se disent « j'en ai bien envie, mais techniquement, c'est impossible ». Il y a même une personne qui m'a écrit « moi, j'ai acheté une casserole spéciale asperge ».
C'est sérieux ?
Haute et profonde pour garder la pointe al dente. La pointe al dente. Non mais, moi, j'en suis pas là dans ma vie. Hein. J'ai pas de canapé. Comment je pourrais avoir la casserole spéciale asperge? Ça, c'est les personnes, tu sais, qui possèdent aussi la yaourtière.
Ah oui.
Et la huche à pain. Un cadre photodigital aussi. Et un fil à couper le roquefort. Hein, parce que, comme si c'était pas possible de couper le roquefort au couteau, quoi. Il y a une tension dans ce pays, les amis. Je crois que les gens ont tellement l'impression de s'être fait enfler par les élections qu'ils ont besoin de passer leur nerf, quoi. Ça me rappelle un copain qui avait pris une baigne dans un pub en Irlande, dans un pub, et je m'étais approché pour lui demander si ça allait. Il m'en avait collé une à moi aussi, quoi. Les gens sont à cran. Normalement, après une élection, il y a une petite lune de miel entre le nouveau président et les Français. Là, on sent que l'avion va pas aller loin, quoi. Décollage Roissy, arrivée Orly. Allez hop, on descend. On n'a pas vu Punta Cana. Mais tant pis, tu prends la ligne, ça, tu rentres chez toi. Pour en revenir à mes asperges.
J'ai peur, j'ai cru que t'avais fini.
Non, mais si j'avais été un musulman, là, je vais même pas imaginer. Darmanin, amendement à la loi sur le séparatisme religieux, 49.3, micro-trottoir de Guillaume Meurice. En fait, le vrai sujet de la campagne, il était là, on est passé à côté, c'était les asperges. Asperges qu'au final, j'ai mangé à la mayonnaise, mais j'ose à peine vous le dire, parce que je vais me faire tomber dessus en commentaire. Quoi, t'as mangé les asperges à la mayonnaise, ça se mange à la béchamel ou à la sauce citron? Non, à la sauce flamande. Le troisième tour s'annonce chaud, messieurs dames. Bon appétit.
Et si vous êtes du côté d'Aix-en-Provence et que vous avez envie d'insulter Alexis Laurence, c'est possible puisque c'est en spectacle demain.
La musique dans Cendrillon. Comment avez-vous travaillé, Joël Pommerat, sur la musique? Le son, c'est hyper important. On va parler de la lumière, parce que ça aussi, c'est très important dans vos spectacles. Mais le choix des musiques, est-ce que vous avez eu une tentation de changer des choses par rapport à la première version et comment vous aviez établi vos choix pour la première version, justement?
Non, j'ai pas du tout modifié ce genre de choses, comme je disais tout à l'heure. La mise en scène est vraiment... maintenue telle qu'elle a toujours été. Le choix donc des musiques s'est fait avec un compositeur, Antonin Lemary, qui a travaillé de concert avec moi sur des thèmes. À vrai dire, la création est en 2011. Qu'est-ce qu'on s'est dit à l'époque? Je m'en rappelle plus, honnêtement.
Voilà.
Mais en tout cas, la façon de travailler, ça a été voilà, qu'ils produisent beaucoup et que moi je puisse faire ma sélection de manière assez libre. Voilà, ça fonctionne pas comme peut-être ça fonctionne au cinéma où un compositeur regarde le film et voilà essaie de d'écrire à partir ou du scénario ou en tout cas des images, une chose déjà un peu définitive. Là vraiment il y a l'idée de d'un travail qui est très en amont avec une écriture qui est pas encore établie et des matériaux musicaux qui arrivent et qui sont testés en même temps que le reste, en même temps que même le texte qui arrive, en même temps que le travail scénique, le travail voire même des fois d'improvisation autour des scènes, voilà, et tout ensuite essaye de s'agglomérer pour faire un objet cohérent et qui ne puisse plus se dissocier.
C'est ces allers-retours là entre ces moments de travail où vous êtes seul, où vous partagez avec le plateau, avec l'équipe. C'est dans ce mouvement-là que ça se fait continuellement.
Oui, et l'idée que les matériaux d'un spectacle, la musique, la lumière d'Éric Soyer, dans certains cas même la scénographie, les costumes d'Isabelle Défunt, la vidéo pour ce spectacle de Renaud Rubiano, tous ces éléments-là en fait se constituent, se cherchent, alors que le texte n'est pas écrit. C'est presque des fois la mise en scène se construit même avant avant le texte, et que la mise en scène influence le texte. Il m'est arrivé d'écrire des bouts de texte parce que je savais que on avait besoin là pour une transition scénique d'occupation du plateau et il faut écrire quelque chose à ce moment-là. Donc vraiment le texte est pas l'objet premier du spectacle.
D'accord. On va se plonger dans les musiques de vos vies respectives, justement. On va commencer pour votre bande originale, Joël Pommerat, en 82.
Ah, là, on le reconnaît.
Là, c'est vraiment... Voilà, c'est la vraie voix qu'on connaît de Bachung. Vous avez entendu tout à l'heure Cendrillon de Chinatown. Vous connaissiez ce titre de Bachung ?
Pas du tout.
Avec une voix assez étonnante.
Oui. Bah, il n'avait pas mué encore.
Non, il n'avait pas encore mué, c'est ça. En 82, Vertige de l'amour. Pourquoi avoir choisi cette musique pour illustrer cette année-là, Joël Pommerat ?
Parce que j'ai essayé de faire le travail correctement.
Alors et attention.
J'ai bossé.
Vous avez donné le voile.
Et que voilà, c'était très long. Ça a pris une semaine entière, je crois. Et que oui, je crois que cette année-là, bah, j'écoutais ça et que c'était ça qui me touchait le plus.
Qu'est-ce qui vous touche chez Bachung ?
Bah, quelque chose qui était à l'époque vraiment. Qui ressemblait pas au format traditionnel, particulièrement oui dans ces années 80. Voilà, il avait une vraie différence, une écriture vraiment singulière. Aujourd'hui, c'est banal de dire ça, mais voilà, on écoute les paroles là, vraiment c'est... Bon, on a beau dire aujourd'hui que voilà, c'est de la poésie, mais à l'époque, je crois que c'est vrai, ça ressemblait à rien et que voilà, c'était pas évident de le définir comme étant de la poésie ou un objet un peu précieux. C'était quelque chose qu'il apportait, qu'il amenait, qui touchait sans qu'on comprenne d'où ça venait complètement, quoi. Donc oui, c'est un grand, mais c'est tellement banal de le dire que
non,
j'ose à peine.
Pas dans vos mots. On est en 82, Joël Pommerat. Vous êtes engagé par la compagnie Théâtre de la Mascara dans l'Aisne. Et finalement, la place d'acteur, c'est pas une place qui va vraiment vous satisfaire sur la durée, puisque vous allez vite vous consacrer à l'écriture. Cette expérience en tant que comédien, qu'est-ce que vous en diriez aujourd'hui ?
Elle était pas confortable, elle était pas voilà, ça me faisait, enfin j'étais attiré, mais ça me faisait beaucoup de violence en même temps. Je pense que la place sur le devant de la scène, elle est pas facile pour moi, elle est pas évidente. Donc je j'étais pas très heureux. C'est un peu dommage de faire un métier soi-disant de passion et de sentir que voilà, on n'en retire pas forcément de la joie. J'ai glissé progressivement vers cette place, d'abord de l'écriture, et là je me suis senti mieux. Et puis bah, les propositions d'être comédien, voilà, n'ont pas aussi été, ne se sont pas bousculées. Donc voilà, les choses se sont faites petit à petit comme ça, et je regrette rien. Je regrette pas parce que je crois que avoir vécu des sensations de plateau pendant 5-6 ans, ça me permet aujourd'hui de comprendre ce qui se passe, et je pense que je continue un peu à concevoir le travail avec mon équipe comme un ancien comédien, quoi. Quelqu'un qui écrit depuis cette place là, quoi, d'acteur.
Dans ces mêmes années, Jean-Robert Charrier, vous écoutiez. « enfin vous écoutiez, c'était In Utero, parce qu'on est en 83, c'est l'année de votre naissance. Vous étiez...
Oui, mais ma mère mettait son casque de Walkman sur son ventre.
Sérieusement ?
Avec Vivaldi en permanence. Vraiment, on a passé 9 mois.
Regardez le grand échiquier, ça n'a rien à voir.
Non, mais vraiment, et du coup, on a un truc, mes frères et sœurs, pareil, avec ce...
Ça vous met en transe, dès que vous...
Oui, ça nous met dans un grand réconfort.
Et chacun une saison différente ou pas ?
Non, toutes les quatre.
C'est votre naissance, donc en 83, vous venez d'évoquer votre mère qui vous emmène beaucoup au théâtre.
Oui, c'est grâce à elle que j'en suis là, malheureusement. C'est de sa faute, oui.
Parce qu'elle aimait ça, elle allait voir du théâtre, il y avait un lien particulier avec le théâtre pour elle.
Oui, on était en bons petits provinciaux, on prenait notre Pariscope, on cochait ceux qui avaient des Molières et ceux qui n'en avaient pas eu, et puis on allait voir à la capitale des spectacles dans le théâtre privé.
Des pièces où vous avez pu voir Claude Brasseur, Jacques Weber, et aussi Michel Bouquet. On ne peut pas ne pas évoquer Michel Bouquet.
C'était fou de voir Michel Bouquet quand j'étais petit.
Et Michel Bouquet aussi, de le voir au théâtre de la Porte Saint-Martin aussi.
On a monté 4 ou 5 spectacles ensemble. Ouais. C'était un immense acteur et puis un type génial en plus.
On va passer aux années 2000. J'adore votre playlist, Joël Pomera. On adore Diams, La Boulette. Pourquoi avoir choisi Diams pour illustrer le début de ces années 2000 ?
Parce que j'ai bossé aussi, que... Non, il y avait beaucoup de choses en 2000, donc il fallait faire un choix. Et je me suis dit, elle manque, cette personne-là. Bon, elle est importante, je crois qu'elle est très heureuse dans sa vie. Je ne vais pas dire que... Voilà, il faudrait qu'elle ait choisi un autre destin, mais en tout cas, elle a arrêté. C'est bien pour elle, mais... Oui, elle n'a pas été remplacée, j'ai l'impression, et ça pose des questions. Et c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un, je pense, qui a compté. Et c'est quelqu'un, c'est une personne bien de tout point de vue, pour moi.
Est-ce que c'est quelqu'un que vous pourriez mettre en scène si d'aventure elle avait envie de revenir à ça ? Est-ce que ce genre de collaboration, vous en parlez avec beaucoup d'affection, de Diams,
ça pourrait vous tenter ? Non, j'ai jamais fait ça. Non, j'ai jamais fait ça, moi. Non.
Comment ça, moi ? J'avais fait ça, moi. Et pourquoi pas, Joël Pomera ?
Joël Pomera met en scène Diams.
Diams ? Au théâtre de la Porte Saint-Martin ?
Dans La Boulette.
La Boulette, ça ira. Ça ira. Ouais. Ça ira, La Boulette. Bah oui.
Non, je crois pas. Je crois que ça me... Je vais y réfléchir, voilà.
Ok, on va y réfléchir.
On va peut-être l'appeler d'abord, si ça vous en parce que là, n'est pas au courant encore.
C'est juste une hypothèse.
Début des années 2000, Joël Pomera, il y a la pièce Au Monde, il y a Le Petit Chaperon Rouge. Le Petit Chaperon Rouge, c'est deux pièces en fait, qui marquent quand même un tournant au sens où, d'un point de vue public, plus grand public, vous accédez aussi à une notoriété plus grande, j'ai la sensation. En tout cas, ça marque beaucoup de gens, en fait, qui vont voir vos pièces à ce moment-là.
Ah oui. Moi, j'ai travaillé beaucoup au Théâtre Paris-Villette. Mmh. Mes premières années, on va dire, se sont faites quasiment au Théâtre Paris-Villette. À l'époque, quand on avait 50 personnes dans la salle, on était très très heureux. Et j'étais très heureux. Et, et quand on avait 100, c'était la fête, quoi. Donc, il y a eu un moment où il y a eu un cap inexplicable où on a rempli et c'était le spectacle Au Monde.
Oui.
Et la même année où on a créé aussi Le Petit Chaperon Rouge, qui était un spectacle pour les enfants, pour les petits-enfants, les enfants de 5-6 ans, c'était l'âge de ma fille. J'ai plutôt pensé à elle quand j'avais fait ce spectacle. Et en fait, ce spectacle, qui s'est pas arrêté depuis d'ailleurs, il tourne maintenant à 21h tous les soirs et il y a que des adultes.
Voilà. Vous êtes encore planté.
C'était la première j'en ai fait plein, mais c'était ma première grosse plantade de ce point de vue.
Dans ces mêmes années, Jean, vous écoutiez.
Toi, tu es mon
autre. Non. Lara Fabian, Morane, tu es mon autre. Alors on s'explique.
Oui, mais Morane aussi, elle manque, je trouve, au paysage.
Oui.
Mais non, mais en vrai, c'était l'année où j'étais en cours de théâtre. Et c'était atroce parce qu'il fallait présenter une chanson et que le prof, devant toute la classe, m'avait demandé de chanter cette chanson. Mais comme si j'étais dans une bulle de savon. il fallait que je caresse la bulle de savon en chantant cette chanson. C'était atroce. Donc voilà pourquoi j'ai arrêté.
Et vous faisiez Lara ou Morane?
Je faisais Morane.
Les cours de théâtre.
Alors, comme Joël, finalement, vous êtes passé aussi par l'apprentissage du métier de comédien et vous avez arrêté aussi.
Et oui.
Parce que parlait d'inconfort tout à l'heure. Joël parlait d'inconfort. Vous, comment ça se traduisait, le fait que c'était pas exactement la place?
Non, mais moi j'ai fait ce métier parce que j'ai rencontré Laurent Terzièb sur scène et que...
Vous avez vu Laurent Terzièb sur scène?
J'ai vu Laurent Terzièb sur scène, oui. Et voilà, et je voulais être Laurent Terzièb et je me suis retrouvé au cours Florent avec des lofters, des gens qui sortaient du loft. Et donc,
qui voulaient donc accéder à une notoriété plus grande, c'est ça?
Oui, ouais. c'était affreux. J'ai détesté ça. Et puis...
Mais alors, pour autant, on peut se retrouver entouré, comme vous le dites, de lofter, mais avoir véritablement envie de poursuivre dans l'enseignement et l'apprentissage de l'art dramatique?
Non.
Non.
Ça m'a...
Ah, voilà. Ouais.
Ça m'a...
Mais si vous étiez tombé dans un autre... Si vous étiez tombé dans un autre contexte, vous auriez pu avoir envie... Si votre envie sincère,
rien,
c'était de être comédien, vous auriez poursuivi.
Non, je crois
pas.
Ouais. Après, je suis arrivé à la Porte Saint-Martin et puis... Et... Je suis arrivé dans ce théâtre et puis tout de suite j'ai annoncé que j'allais le diriger parce que je pouvais pas faire autre chose.
Ah, juste, vous êtes arrivé, on va quand même préciser, au théâtre de la Porte Saint-Martin pour gagner votre vie.
Oui, pour payer mes cours de théâtre avec les lofters, pour payer les cours Florent. Et puis donc je déchirais les billets à l'entrée et puis très très vite j'ai annoncé que j'allais... Enfin j'ai pas annoncé, j'ai dit que je sentais que j'étais fait pour ça.
Et vous avez écrit une lettre.
Et j'ai écrit une lettre, et puis on a rigolé, mais quand même on m'a filé un bureau, on m'a payé au SMIC pendant 5 ans pour faire les petites tâches. Et puis j'ai.
Et maintenant, il est à la tête du théâtre de la Porte Saint-Martin où vous allez pouvoir applaudir Cendrillon de Joël Pommera à partir du 3 mai jusqu'au 19 juillet. Pour parler des contes, de cette matière-là qui vous anime, Joël Pommera, on a demandé à Anne Florey de venir dans cette émission. Bonjour Anne, vous êtes psychologue clinicienne et psychothérapeute, auteure de Créer des contes pour son enfant ou Comment utiliser des clés symboliques pour aider à surmonter ses difficultés et grandir aux éditions d'Angle pour ses deux ouvrages. Est-ce qu'on peut poser déjà des termes de définition du conte, s'il vous plaît, Anne?
Oui, alors, moi je dirais que ça a été la chose la plus difficile à faire.
De définir le conte?
Oui. Oui. Un conte, je dirais que c'est une histoire à contenu fantastique qui parle de façon voilée, c'est-à-dire qui parle à l'inconscient, de problématiques essentielles qui sont éternelles, essentielles, éternelles. Mmh. Et j'ai eu l'occasion de regarder votre pièce, mais alors c'était dans un théâtre canadien. Et
on a tous une expérience très différente. Hein. On a tous beaucoup voyagé pour vous voir. Il y en a une qui prend le RER.
J'ai regardé sur YouTube, pour tout vous avouer. Et je me suis beaucoup, beaucoup amusée. Et j'ai trouvé que vous aviez complètement gardé les clés essentielles du conte.
Quelles sont ces clés essentielles, justement?
Alors, les clés essentielles, c'est le fait de passer de façon inconsciente. De passer le message de façon inconsciente. Mm-hmm. Parce que l'enfant va... pouvoir, à travers le récit, s'identifier et régler ses conflits éternels, comme l'Oedipe, comme le problème avec la belle-mère qui figure le côté négatif de l'Oedipe.
Est-ce que l'enfant règle vraiment les problèmes, ou en tout cas prend conscience met des mots dessus, ou dit qu'il n'est pas le seul, voilà, qu'il n'est pas le seul à les vivre, en tout cas, à les traverser, ces difficultés?
Non, ça, ouais. c'est universel. Oui. Mais ça lui fait beaucoup de bien parce que il n'est pas obligé de l'exprimer. Si vous voulez, un enfant n'a pas les mots pour exprimer ce qu'il ressent. Il le sait pas. Et il l'exprime à travers des comportements à l'école, par exemple, où il va être violent parce qu'il a un beau-père qui supporte pas, etc., etc. Donc il y a les clés. C'est vraiment une façon de passer un message à l'enfant, un message qui est éternel. Et il faut surtout pas lui expliquer.
Est-ce qu'il y a des contes incontournables? Là, on parle de Cendrillon.
Cendrillon est incontournable.
Pourquoi?
Parce que Cendrillon parle de la mort. Cendrillon parle de l'Oedipe. Cendrillon parle de l'identification. Cendrillon parle des problèmes de la phase d'adaptation de la jeune fille. Donc Cendrillon parle de problèmes absolument essentiels. Bon, vous avez aussi Blanche-Neige.
Voilà, est-ce que tous les contes de ce point de vue-là sont incontournables? Alors,
pas tous, parce qu'il y a énormément de contes. Il y a une tradition orale qui est transformée selon les époques. Mm-hmm. Hein, vous avez adapté à notre époque et bravo. Mais Cendrillon et alors Blanche-Neige est aussi un des contes essentiels. Blanche-Neige, Le Petit Chaperon Rouge, je dirais que c'est les trois plus importants.
Merci voilà. Anne Florée d'être venue dans la bande originale, tout de suite dans la bande originale. On va remettre les prix de la semaine, n'est-ce pas? Non,
ah bon,
pas du tout.
Si, si, si.
Ah, tu veux? Je sais pas, comme tu veux, Tom. C'est Tom Villa. C'est Tom.
Aujourd'hui, on va décerner le prix de la surprise de la semaine. Et dans cette catégorie, les nommés sont. Premier nommé, Arthur Germain, qui a avoué ne pas avoir voté pour Anne Hidalgo au premier tour de la présidentielle. Arthur Germain, qui est le fils d'Anne Hidalgo. Rendez-vous la semaine prochaine et on apprendra que même Anne Hidalgo n'a pas voté pour elle. Deuxième nommé, l'Arabie Saoudite, qui demande à Disney de retirer un passage du prochain film Doctor Strange, parce qu'un passage du film ne leur convient pas. Bah heureusement qu'ils n'ont pas vu Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 3, parce qu'ils n'auraient pas gardé les bandes-annonces, dis donc.
L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures.
Troisième et dernier nommé, Elon Musk, qui a racheté Twitter pour 44 milliards de dollars. Donc maintenant, on sait combien coûte le prix de la haine et des fautes d'orthographe. Et le grand gagnant dans la catégorie de la surprise de la semaine est.
Elon Musk.
L'Arabie Saoudite.
Wow.
Bah oui. Puisque l'Arabie Saoudite a demandé à Disney de couper un extrait du film Doctor Strange 2, extrait qui les dérange, où il est question d'homosexualité. Alors, c'est vrai qu'un sujet comme ça, pour nous, France Inter, nous, les woke, les amateurs du mélange, les défenseurs du pluriculturalisme, les apôtres de la mixité, les garants de l'équité, les protecteurs de la liberté, bref, nous qui rêvons toujours d'un monde plus juste, plus pacifiste et plus tolérant, de voir les Arabes vouloir péter la gueule des PD, ça nous fout en l'air. Alors, c'est vrai que l'Arabie Saoudite n'est pas le pays où les droits de l'homme avec un grand H est le plus avancé, le droit des femmes avec un petit foulard encore moins. Non, je juge pas, je constate. C'est vrai que l'Arabie Saoudite, c'est un pays où les lois sont comme un lit dans un hôtel Ibis budget, dur. Là-bas, quand on dit « mon mari a perdu la tête », c'est pas une métaphore. Voilà. C'est un pays strict, ils sont troisième au classement des pays qui a le record d'exécution annuelle, derrière la Chine et l'Iran. Et encore, ils sont troisième parce que, enfin, c'est les moins nombreux, hein, parce qu'au ratio, c'est les premiers. C'est vrai qu'on peut y être exécuté pour adultère, viol, homosexualité, mais aussi pour rébellion politique. Donc, autant dire que la Gay Pride et les Gilets jaunes, ça n'a pas pris là-bas énormément. L'Arabie Saoudite a demandé donc à Disney de retirer une scène du prochain Doctor Strange au motif, selon le responsable de la classification des films en Arabie Saoudite, de, je cite, référence LGBTQ, et qu'au Moyen-Orient, il est très difficile de faire passer quelque chose comme ça. Alors, déjà, c'est une scène qui dure à peu près 12 secondes, dans laquelle la super-héroïne lesbienne America Chavez fait une référence à ses deux mamans. Alors, est-ce qu'on peut juste prendre le temps de décortiquer la phrase du monsieur? Il est très difficile de faire passer quelque chose comme ça. Difficile. Moi, j'aurais dit impossible. Parce que, pour moi, la définition de difficile, par exemple, quelque chose de difficile, c'est ramasser un stylo avec ses pieds. Ça, c'est très c'est difficile. Tu me laisses une demi-heure, je peux peut-être y arriver. Ramasser un stylo avec ses oreilles, ça, c'est très, très difficile. Mais c'est jouable. Au plus grand cabaret du monde, ça peut être un numéro. Mais ramasser un stylo avec son nombril et ensuite se le foutre dans le cul, ça, c'est impossible. La physique a ses limites. Donc, au vu des lois en Arabie Saoudite, je dirais que c'est difficile. C'est pas difficile, c'est impossible.
Pardon.
Et si on continue l'analyse de la phrase du responsable de la classification des films en Arabie Saoudite, vous avez vu le mot employé, le monsieur a dit il s'agit d'une référence LGBTQ. Bah putain, c'est déjà un progrès. Pour des gens qui n'aiment pas les homos et qui les préfèrent morts, ils les définissent bien, ça c'est chouette. Non mais là, il reconnaît l'existence des LGBTQ, ça c'est cool. Alors Disney a refusé de couper l'extrait du film, tant mieux, mais si je trouve ça dommage, alors pas pour la cause, parce qu'évidemment, on ne doit jamais couper une œuvre parce que quelque chose ne nous plaît pas, vous imaginez La vie d'Adèle ou Brokeback Mountain sur les scènes homosexuelles. Le film, il durait 4 minutes, dont 3 de générique. Non, non. En revanche, c'est dommage parce que les films sont de plus en plus longs.
Docteur Strange, il va faire 2h06. Le dernier Spider-Man, 2h30. Le dernier Batman, il fait 3h. C'est plus des durées de film, c'est des temps de vol. Sans déconner. Non. On ne coupe pas un film en revanche, juste parce que une héros, héroïne est lesbienne, gay, bisexuelle, transsexuelle, transgenre, queer, intersexe, asexuelle, en questionnement, ou tout autre genre que je n'aurais pas cité. Du temps de Daniel, on disait qu'en France, on n'avait pas de pétrole, mais on avait des idées.
C'est vrai.
Bah eux, ils ont du pétrole. Et a priori, ils ont vraiment pas de cœur.
Bravo, candidat.
Tom Villa au spectacle le 3 mai à Bordeaux et le 13 à Nantes.
Tout à fait.
Tanguy Passion est avec nous aussi. De quoi on va parler dans la prochaine demi-heure?
Eh bien, je vais parler de Will Smith, l'acteur, mais il est pas bien. Hein. Il est pas bien, il regrette la violence qu'il a envahie il y a un mois et donc il est parti en Inde en retraite spirituelle.
Oh, wow.
C'est ça que font les stars quand ils sont pas bien.
La bande originale avec Morgane Cadignan, avec Alexis Le Rossignol, Tom Villa, Tanguy Pastureau, Daniel Morin et nos invités Joël Pomera et Jean-Robert Charrier. Joël et Jean pour Cendrillon au Théâtre de la Porte Saint-Martin, cette très belle pièce. Alors, vous l'avez fait, Joël, tout à l'heure, j'ai évoqué la distribution, Alfredo Cagnavate, Noémie Carco, Caroline Donnelly, Léa Millet, Catherine Mestoussi, Damien Rico, Marcella Carrara et Julien Desmet, et puis aussi toute l'équipe qui vous entoure à la création, à la scénographie et à la lumière. Et je trouve ça intéressant que ce soit la même personne, à savoir Éric Soyer, qui soit à ces deux postes. Là, est-ce que ça veut dire quelque chose de votre rapport à la lumière, justement, dans vos pièces de théâtre, Joël Pomera, que ce soit la même personne qui ait ce même poste, ces deux postes-là?
Je crois, oui, on va essayer de ne pas être trop technique ou trop ennuyant.
Non, mais, vous ne l'êtes pas.
Voilà, c'est vrai que le principe de mon travail, c'est un peu l'espace nu ou vide ou dépouillé. Et donc... la scénographie, enfin d'ailleurs le terme est différent de décor. Au théâtre, on parlait souvent de décor avant, parce qu'on meublait beaucoup. Je crois qu'il y a un dépouillement, je suis pas le seul à aller dans ce sens, un dépouillement des scènes qui se fait dans la mise en scène contemporaine. Et en tout cas, dans les miennes, c'est le cas. Je pars d'un plateau vide et j'essaie de le meubler plutôt par les présences des corps, des personnages, des actrices et des acteurs, et que la lumière, elle est prépondérante. Mais la lumière associée aussi à une façon de resculpter aussi l'espace scénique. Je parlais tout à l'heure qu'on a commencé à travailler au Théâtre Paris-Villette, qui est un théâtre, quand il est nu et vide, il a des colonnes en pierre, c'est une sorte d'église un peu. C'est très beau, mais c'est très encombrant aussi à l'œil, et c'est pas facile de venir créer des mondes particuliers dans cet espace-là. En fait, le premier travail de la scénographie, c'est de rendre invisible, de recréer une... Alors, les gens qui nous aiment pas disent, voilà, ils font toujours des boîtes noires, ils font des boîtes. Alors, effectivement, on diversifie nos boîtes, on aime les boîtes, mais des espaces, en quelque sorte, où il est possible de reconstruire des réalités et d'associer en quelque sorte aussi l'imaginaire du spectateur, c'est-à-dire finalement le décor, c'est le spectateur qui va le co-construire avec la lumière, avec l'espace. Donc c'est une association.
Est-ce qu'il y aurait des théâtres où il serait impossible de jouer pour vous?
Bah, plus le théâtre est chargé. Alors les théâtres à l'italienne, c'est effectivement pas les théâtres qu'on préfère, aussi parce que il y a des boîtes aussi à l'intérieur même de l'espace public, puisque le public est compartimenté. Il y a ceux d'en bas, ceux des côtés, ceux d'en haut, et ça c'est terrible en fait. Ça conditionne beaucoup la façon de mettre en scène. Est-ce qu'il y a des théâtres où c'est impossible de jouer? On essaye, non. Mais par exemple, une des conditions, je peux le dire, quand il y a eu la proposition de Jean d'accueillir Cendrillon, moi j'étais très sceptique parce que une salle de je crois 900 1000 places comme ça, avec des places très en haut, très sur les côtés, correspond pas du tout à, au rapport que nous on a créé avec ce spectacle.
Vous avez demandé
qui est très frontal. Ouais. Moi, je lui ai demandé, et j'étais sûr qu'il allait refuser de supprimer des places qui correspondaient pas du tout au rapport qu'on avait construit avec ce spectacle.
Donc soyez pas surpris s'il y a 30 personnes, c'est que c'est complet. Hein, voilà.
Non, je crois qu'il y a près de 400 places condamnées.
400 places. Ouais.
400 places condamnées sur une jauge de combien, Jean ?
1000.
De 1000. Je comprends que Joël ait pu se dire il n'acceptera jamais. Ouais. Et pour autant, vous acceptez, ça veut dire que, rentrer dans des détails trop complexes, mais c'est quand même une économie, le théâtre de la Porte Saint-Martin comme tous les autres. On peut pas faire de chiffres, on peut pas faire de bénéfices sur ce genre de représentation. En tout cas, l'idée, c'est quoi ? C'est d'être à l'équilibre,
à minima. Non, mais de toute façon, c'est la question du bénéfice quand on reprend des spectacles qui viennent du théâtre
subventionné
est quand même extrêmement délicate, parce que c'est des spectacles qui ont quand même été payés par de l'argent public, et qu'un producteur privé fasse de l'argent sur des spectacles de théâtre public, c'est très étrange.
Ouais.
Donc ça tombe bien, parce que en retirant 400 places, c'est impossible de gagner de l'argent. Et même, c'est quasiment sûr qu'on en perd à chaque fois. Donc cette question-là a été dégagée très rapidement. Et puis voilà, nous, on équilibre avec des productions 100% privées de la Porte Saint-Martin le reste de l'année. Et on peut se permettre de faire ça parce que on réussit d'autres projets le reste de l'année. Mais évidemment, la question est uniquement artistique et surtout pas de faire de l'argent.
Oui, c'est ça. Et les discussions entre vous deux, forcément, se sont bien passées tout de suite.
Franchement, ça a été fluide.
Oui, tout à fait. On s'est dit les choses franchement,
vous
sincèrement.
Pas non plus, quoi.
Non. Pas de jugement, Alexis, s'il te plaît.
Allez voir Cendrillon au théâtre de la Porte Saint-Martin, mise en scène par Joël Pommera, bien entendu. Dans ce théâtre où on va parler aussi de la programmation dans un instant, au-delà du Festival d'Anjou, bien entendu, parce que c'est toujours un bonheur de venir voir ce que vous programmez. On reçoit beaucoup de pièces. Récemment, je pense à Stallone, avec Clotilde M de Fabien Gorgeard, qui nous avait énormément plu. Mais tout de suite, dans la bande originale, c'est Tanguy Pastureau. Ah. Tanguy !
Et là, on n'a pas besoin de l'appeler.
Ouais, c'est horrible, cette société de l'immédiateté, du buzz dans laquelle on vit. Voilà, ça c'est une intro qui fait croire qu'il va y avoir du contenu et qui permet de faire passer tranquillou 10 blagues de tub. Non, je pensais à Will Smith il y a un mois aux Oscars. Il a giflé Chris Rock très fort, hein, depuis l'autre vie, avec les empreintes de Will Smith sur la joue. Il pourrait débloquer le téléphone de Will Smith juste en frottant sa face dessus. Et ben, la planète entière en a parlé. Will Smith est même interdit d'Oscar jusqu'en 2032. Une sorte d'agenda inversé. Il sait ce qu'il ne va pas faire sur 10 ans. Comme l'archevêque de Paris par rapport au plan sexe. Alors, rappel des faits, Chris Rock s'était moqué de l'épouse de Will, Jada, qui à cause d'une maladie perd ses cheveux. Will se marrait, t'aime une loutre asthmatique. Puis il a regardé Jada, a réalisé qu'elle, par contre, faisait la même tête qu'Emeric Caron quand sur Radio Classique il tombe sur la truite de Schubert et Chris et du spécisme. Donc il s'est levé et a giflé Chris Rock. Ce qu'on devrait faire à chaque fois que quelqu'un fait une blague ratée. Ici, il n'y en a plus un qui aurait ses dents. Un texte, il n'aurait même plus de tête. Au dîner, sa femme serait obligée de lui faire couler le potage directement dans le cou. Ensuite, Will Smith a fait son mea culpa. Et nous, on est passé à autre chose. Vous savez, toujours cette spirale de l'info. Kiev, Zemmour, Mariupol, Le Pen, le torse de Macron, la victoire de Macron, etc. Mais lui, Will Smith, il y pense toujours. Et il peut pas se plaindre parce qu'il est l'agresseur. C'est toujours comme ça. Le lendemain de la marche sur Rome, personne n'a demandé à Mussolini s'il allait bien ou pas. Hein, ce qu'on voyait, c'est juste qu'il a déboulé avec 30 000 fascistes tout en noir et c'est normal. C'était en 1922 et Désigual s'est implanté en Italie qu'en 88. Personne n'a envie de plaindre Will Smith parce qu'il est méchant. Les gens qui avant disaient à leurs enfants « Mange, sinon Manuel Valls va venir te prendre, imprimer son CV sur toi et te déposer devant chez Macron. » leur disent « Mange, sinon Will Smith, il va te décalquer ta tête, Théo. Les enfants n'ont jamais autant mangé. Mon fils tourne à 4 patates par jour. À 8 ans, la commune de Loué dans la Sarthe l'a déjà fait citoyen d'honneur. Et bon, nous, les gueux, quand on fait une erreur, on prend sur nous et on continue notre vie. Mais les stars ont une psychologie fragile. Et là, on a appris que Will Smith était parti en retraite spirituelle. C'est-à-dire, pour une mandale, il va méditer 3 mois en doge, entouré d'encens. La même vie que quand on s'est endormi dans un hamac à nature et découverte et qu'on passe la nuit enfermé dans le magasin. Alors, il est donc parti en Inde, hein, pour méditer. C'est la destination numéro 1. Le Donbass actuellement est 4 millième. Alors l'Inde, moi j'y suis jamais allé, c'est trop risqué. Moi dans la Nièvre, j'ai déjà chopé une tourista, mais ça semble être le lieu où on est bien. Hein, c'est l'équivalent d'Europe 1 dans le monde de la radio, ils n'ont pas d'auditeur, donc zéro pression. Hein, Sonia Mabrouk, elle peut jouer à chat avec Bruno Le Maire au lieu de faire son interview, personne ne se rend compte de rien. Bon. La retraite spirituelle en Inde, attention, c'est un classique du showbiz. En 68, les Beatles y étaient allés avec des groupies, la moitié des gens étaient en tenue à fleurs, l'autre moitié à poil. Un jour une fille avait dit à John Lennon, elle est belle ta fleur, elle avait répondu, non ça c'est mon pénis. Hein, voyez, on y vient, j'avais promis au début. Ok. Super. Bon, elle lui avait dit, ça ressemble quand même pas mal à une fleur. Et là, il avait eu l'idée de consulter un docteur. Il avait 12 chlamydia différentes. Hein, son sexe ressemblait tellement à Laurent Romeshko quand il met un pull à col roulé que les gens lui disaient consonne. Depuis, d'autres stars se sont taillées en Inde afin de se reposer. Leonardo DiCaprio, Cameron Diaz, Eva Green. Ils arrivent, les mecs leur tapent sur le crâne avec un bâton de pluie. Ils passent 10 jours dans les vapes et ils reviennent à Hollywood en disant, je me souviens de rien. Donc, c'est, ça doit être formidable. Alors, Will Smith, d'après le site américain People, va aussi pratiquer le yoga. Hein, c'était bien la peine d'aller jusqu'en Inde. Alors qu'au Cercle de la Forme à Pantin, le jeudi à 18h, il y a activité yoga avec David. 29€ par mois, hein, quand même, pour se foutre les doigts de pied dans la bouche, merci. Si je veux finir comme ça, je me crache en Peugeot contre un pain, vous êtes gentil. Bref, Will change. Hein, il a déclaré ne plus jamais autoriser la violence à prendre le dessus sur la raison. La prochaine fois qu'il va croiser Chris Rock, ça va être la fête à la papouille. Le dire à pitié, refrappe-moi, quoi, mec, je préfère. Quant à sa femme Jada, elle a annoncé qu'elle parlerait de la gifle dans une de ses émissions qu'elle fait sur Facebook, le réseau social, ou même quand vous parlez de pâté en croûte, quelqu'un en commentaire écrit Macron démission. Elle dit, et c'est très hollywoodien, vous savez, c'est plein de chichi. Elle dit, j'ai encore besoin de temps pour assimiler tout ça. Une gifle à digérer, il va lui falloir 6 mois. Vous l'envoyez sur une scène de guerre, avoir un chaman en lui expliquant qu'elle a besoin de 9 vies entières, dont 8 de Michel Drucker. Elle ajoute, certaines des découvertes autour de notre guérison seront partagées lorsque le moment sera venu. Parce que là, ils travaillent tous dessus ensemble. Will, Jada, toute la famille, hein, entourée de 12 gourous en lévitation et de l'esprit de Gandhi qui se manifeste en traçant des symboles peace and love dans le sable. Alors, ok, gifler quelqu'un, c'est mal, mais de là à se taper le vol LA New Delhi avec le risque dans l'avion de tomber sur un film de la bande à Fifi, tout ça pour une gifle. Enfin, j'ai envie de dire, cessez de vous regarder le nombril, les bolosses. La moitié de l'humanité vit sous le seuil de pauvreté. Eux, la gifle, c'est la vie qu'il a leur main tous les jours. Donc, comme disait Public Enemy, le groupe Burn Hollywood, Burn.
Bravo, Sandy.
Tanguy, le 12 mai, à Guy Pavas, dans le Finistère.
Guy Pavas.
À Guy Pavas.
À Guy Pavas, on prend le reste de fin.
Parce qu'il y en a un seul.
Le breton est susceptible et compliqué au niveau des noms.
Compliqué, je sais. Voilà.
Et Joël Pommera à découvrir au Théâtre de la Porte Saint-Martin pour Cendrillon, d'autres événements dans l'actualité culturelle. Si je vous dis Nicolas Bedos, Jean Dujardin, ou
série
encore Franck Gastambide d'Olivier Marchal.
Ce sont des cons.
Mais non, mais je vous laisse.
Tu sais que ça va être isolé.
C'est pour rire,
ça va être isolé.
Eh ben, je te donne le point.
C'est ça en plus.
Donc c'est partagé.
Non, c'est Tom qui a raison en évoquant Amazon Prime. En effet, Olivier Marchal et son film Overdose, Franck Gastambide et son film Medline, Nicolas Bedos et sa série Alphonse avec Jean Dujardin, une série documentaire sur Paul Pogba, Amazon, le grand gagnant des plateformes. On ne sait pas, on verra, on fera les comptes à la fin. Mais en tout cas, le théâtre, l'art vivant, Joël Pommera. Est-ce que il est envisagé que les plateformes s'y intéressent?
À ma connaissance, non. Et à mon niveau d'expertise, je crois que ça n'arrivera jamais, mais bon.
Pourquoi?
On ne sait jamais.
Parce que ça n'est pas digne d'intérêt, ou parce que vous pensez que les plateformes ne s'y intéresseront jamais?
Moi, je pense que si les plateformes s'y intéressent, avaient des chances de s'y intéresser, les chaînes publiques s'y seraient intéressées déjà depuis longtemps. On voit bien que l'audiovisuel, voilà, s'intéresse pas au théâtre.
Que c'est de la captation.
Fait pas d'efforts, mais je comprends. Moi, j'aime pas qu'on filme mes pièces. Et je pense que ça, c'est pas la même chose et que ça peut pas un certain type de théâtre ne peut pas se retranscrire visuellement. Je comprends qu'il y ait pas vraiment d'efforts qui soient faits.
Oui.
Il pourrait y avoir une façon. Il pourrait y avoir des supers émissions à la télévision qui parlent du théâtre, qui donnent envie de faire du théâtre. Ça n'existe pas. Donc je pense que les gens qui sont plutôt dans l'optique de faire du profit vont pas s'y intéresser. Il y a pas à avoir peur.
La Comédie Française, par exemple, propose des lives dans les cinémas. Est-ce que ça, c'est aussi une forme qui est déceptive par rapport au fait d'être vraiment dans une salle et de voir un spectacle? Ça vous convient pas non plus?
Non,
mais j'entends. Hein, je peux complètement entendre que ça soit sur la création. Après, quand je vois vos pièces, je pense à Ça ira la fin de Louis, par exemple. C'est une pièce qui serait, je ne sais pas alors comment l'imaginer. Est-ce qu'il faut, il faut la transcrire en film? Est-ce qu'il faudrait l'adapter? Est-ce qu'il faudrait, est-ce qu'il y a moyen de travailler une adaptation pour en faire un film? Est-ce que ça, ça peut être aussi dans vos envies et vos projets?
Bah, je travaille depuis 2 ans à la mise en scène cinématographique de Saïra.
D'accord, d'accord. Donc c'est...
Mais ça devient, voilà, ça devient un objet cinématographique, ouais. Et c'est complètement autre chose que la mise en scène théâtrale.
Oui, et ça, les plateformes pourraient éventuellement être des guichets auxquels s'adresser pour aider à financer.
Oui, ils sont concernés.
Ah ben voilà.
Ah ben, ils sont concernés.
Oui.
On a toqué à leur porte, oui. Oui.
Bien sûr, bien d'accord. Sûr, bah oui. Le théâtre filmé, Jean-Robert Charrier, en tant que patron d'un théâtre, d'un festival, vous en pensez quoi?
Moi, c'est hyper important pour moi dans ma vie de spectateur parce que j'ai vu énormément de spectacles, notamment de la Comédie Française, que j'aurais jamais pu voir parce que j'étais pas né, tout simplement. Donc je trouve que en termes d'archives et de mémoire du théâtre, c'est hyper important.
Ce qui n'est pas la même démarche que de voir une pièce...
Oui, oui. En revanche, voir des pièces contemporaines au théâtre, au cinéma ou sur un ordinateur ou sur une télé, ça me navre. Je trouve ça affreux. Je vois vraiment pas du tout l'intérêt.
Parlons un peu de la programmation du théâtre de la Porte Saint-Martin.
Ah, oui.
Et du festival d'Anjou, on commence par lequel? Le festival peut-être, votre bébé
Oui, bah, le festival, là, ça va être ma première année avec enfin toutes les conditions, avec des salles extérieures, des endroits extérieurs, intérieurs, avec vraiment une vraie programmation.
Un retour à la normale, sur beaucoup de lieux, hein, c'est le principe du festival d'Anjou, Château du Plessis-Massé, le Cloître, Toussaint, les arènes de Douai, le Dôme Saumur, le quai d'Angers aussi.
Non, on ne va pas au quai d'Angers, mais on va partout ailleurs, on va au Grand Théâtre d'Angers. Et donc c'est des lieux très très différents et on a une programmation aussi très très éclectique. On démarre avec Amanda Lear et Michel Faux, on clôture avec Joël Pomera, en passant par des soirées musicales avec Andando et Camélia Jordana, avec Daniel Auteuil qui vient chanter.
Il y a des masterclass.
Il y a aussi des grands spectacles de troupes avec le Bourgeois Gentilhomme de Denis Podalydès, le fracas de Jean-Christophe Imbert. Enfin, il y a plein de spectacles différents. Tout est en ligne. Ça va être super.
Il faut réserver ses places. Ouais. Il y aura Stallone de Fabien Gorgeard justement dont on avait parlé dans cette émission. Ouais. Il faut s'adapter au lieu là aussi. Joël Pomera, ça demande beaucoup de travail en amont pour les 3 pièces qui vont être présentées dans le cadre du Festival d'Anjou? Parce que si mes informations sont exactes, les lieux, alors faut me dire peut-être...
Oui, ça ira, c'est au Grand Théâtre d'Angers, donc c'est un théâtre italien, donc ça demande un peu de travail.
Une boîte-boîte?
Non, mais on l'a déjà fait, donc on sait maintenant comment
le faire.
Ouais, comment le faire un peu, ouais.
Le Petit Chaperon Rouge, c'est au Dôme de Saumur, mais il est déjà passé là il y a des années, donc tout va bien. Et puis Contes et légendes. C'est dans une salle... dont je ne me souviens plus du nom.
D'accord,
C'est la première fois qu'on va dans cette salle-là.
Ok, ouais, c'est pas grave.
Mais c'est super.
Ouais, ça sera super. Donc là, ça demande un peu d'adaptation ou finalement, par rapport aux configurations que vous avez déjà connues, c'est pas si compliqué que ça?
Non, bah, de toute façon, on tourne quand même pas mal, donc on est confronté à ces questions-là de diversité des lieux. Ça se travaille en amont. C'est Emmanuel Abbat qui est directeur technique de la compagnie, qui travaille à réfléchir à toutes les difficultés qui pourraient se présenter pour que quand on arrive la veille ou l'avant-veille, on sait déjà ce qu'il faudra faire pour être comme d'habitude plus ou moins.
Et qu'est-ce que vous écrivez en ce moment? Sur quoi vous travaillez, Joël Pomera, si c'est pas indiscret? Bien sûr, il y a Cendrillon au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 3 mai jusqu'au 19 juillet. De quoi va être constitué les semaines, les mois qui viennent dans votre travail?
Comme je disais à l'instant, là, je travaille particulièrement à l'écriture et à la préparation de ce long métrage à partir de la pièce Saïra, qui s'est finalement complètement transformée pour devenir un objet à part, différent. Là, pour le coup, une recréation totalement.
Avec la même troupe,
avec la même base de 14 actrices et acteurs, mais plein d'autres gens, puisque voilà, au théâtre, on arrivait à faire foule avec l'imagination des spectateurs. Au cinéma, on sera plus dans la réalité de ces masses.
Il y a beaucoup de figurants, quoi. Il va y avoir du monde.
Il n'y a pas de figurants, non. J'aime pas l'idée de la figuration, non. C'est il y aura plein de gens, des actrices et des acteurs, plein.
D'accord. Donc ça sera pour les prochains mois, les prochaines semaines.
Voilà, en tout cas, c'est tous les prochains mois sont consacrés à ça, plus la tournée des spectacles dont on a parlé et d'autres qui sont au répertoire de la compagnie qui continuent à tourner.
Et des envies d'écriture déjà, des choses amorcées. Vous évoquiez votre façon de fonctionner, les choses qui se font comme ça, par conglomérat, qui avancent progressivement. Est-ce qu'il y a déjà des bribes de textes, des textes ? Parce que ça ira, l'entreprise cinématographique, ça va prendre du temps ?
Oui, ça prend du temps et j'ai envie aujourd'hui de me consacrer à une chose en même temps, on va dire.
Cendrillon au Théâtre de la Porte-Saint-Martin, j'ai précisé Éric Soyer pour la scénographie, la lumière, Isabelle Défin pour les costumes, François Lemary pour le son, Renaud Rubiano pour la vidéo, Antonin Lemary pour la musique originale, parlons aussi de Philippe Carbonneau, collaborateur artistique, comme je donne tout le monde, et Pierre-Yves Le Borgne, assistant de mise en scène à la création, avec une superbe troupe sur scène et des interprètes exceptionnels, Catherine Mestoussi, Damien Rico, Marcella Carrara, Julien Desmé, Léa Millet, Alfredo Canavate, Noémie Carco, Caroline Donnelly, un très beau spectacle que je vous invite à aller voir. En plus, là, vous avez un peu de temps du 3 mai au 19 juillet, on ne peut pas le manquer. Rendez-vous dans ce très beau théâtre de la Porte Saint-Martin où officie Jean-Robert Charrier. Il est temps de vous présenter nos excuses, Daniel, peut-être.
Alors déjà, désolé pour Diams qui nous écoute et qui, pendant deux secondes, a cru qu'elle serait la star de la prochaine mise en scène de Joël Pommerin, un conte moderne et effrayant, mais quand même plein d'espoir, intitulé « La petite fille et la boulette ». Non, c'était juste une idée comme ça. Hein. Après, c'est pas exclu non plus. Hein. Tenez-vous prête, mademoiselle, on sait jamais. Même si c'est peu probable, en même temps, on sait jamais. Au cas où, préparez-vous. Enfin, il y a peu de risques. Et pourtant, faut que je reste de rien. Restez à l'écoute. Bref, ne bougez pas. Désolé pour Blanche-Neige, Pocahontas, la Reine des Neiges, Dora l'Exploratrice, l'âne trop ou Bob l'Éponge, qui, suite à la jurisprudence Cendrillon, ont cru qu'eux aussi auraient droit à une version pimpée de leurs aventures. Eh ben non, les gars, il y en a que pour la petite souillon qui parle au rongeur, qui perd ses pompes dans les escaliers et qui roule en légumes. Désolé pour toutes les phrases qui n'ont jamais été complètement terminées par Joël Pommerat. Alors, comme le dit très justement le Dalai Lama, les silences qui précèdent les réponses de Joël Pommerat, c'est déjà du Joël Pommerat. Les silences qui suivent et qui coupent net les réponses de Joël Pommerat, c'est chelou. Désolé pour la déconne, la déglingue, les chenilles improvisées, bref, tout ce qui a été absent de cette émission, de l'émission de ce matin. Heureusement, dès lundi, on revient pleine balle, en slip et en tongs, avec une rediffusion de notre émission qui était avec Raphaël.
Ouais, merci beaucoup Daniel Morin, merci à la bande, merci Joël Pommerat d'être venu, merci Jean-Robert Charrier. Merci. Il y a ce spectacle au Théâtre de la Porte Saint-Martin, il y a le Festival d'Anjou aussi, j'ai pas donné les dates, à partir du 9 juin.
Du 6 juin au 3 juillet.
Oh là là, et ben là ça va être une grande période ça va être... Allons rendre visite à Jean-Robert Charrier au Festival d'Anjou.
On va prendre un Airbnb parce que sinon ça va coûter très cher en hôtel.
Merci la bande. Et en effet on se retrouve lundi avec les meilleurs moments de l'émission, avec l'invité Raphaël. On a réussi à trouver des trucs, on les a doublés, dupliqués parfois, mais bon, ça tient une heure et demie. Passez une belle journée sur France Inter et un très beau week-end à vous.
Bon week-end.